Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Pour nous, il nous faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Mes très chers frères, la veille de sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement central de la nouvelle loi, de la nouvelle alliance, qu'est le saint sacrifice de la messe. C'est l'oblation pure prophétisée par le prophète Malachie qui obtient efficacement non seulement la rémission des péchés, comme dans l'Ancien Testament, figurativement, mais encore la sustentation pour la vie éternelle à ceux qui la reçoivent dignement. Le sacrifice de la Nouvelle Alliance obtient efficacement la rémission des péchés et il nourrit nos âmes pour la vie éternelle. Mes très chers frères, comment être digne de recevoir ce sacrement? Il y aurait bien des choses à dire, nous n'en dirons qu'une toute petite partie. Nous verrons deux choses aujourd'hui, principalement, à propos de cette dignité qu'il nous faut absolument pour recevoir le sacrement de la communion. Premièrement, nous verrons qu'il nous faut vivre sous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui signifie, entre autres choses, et principalement, une ordonnation de la vie, qui sera l'unique façon de recueillir la grâce divine. Et la deuxième chose que nous examinerons aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, c'est qu'il nous faut savoir que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que nous devons être conscients de notre besoin permanent de l'assistance divine pour la vie surnaturelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Il y aurait tant de choses à dire, mes très chers frères, lors de la messe du Jeudi Saint, la messe qui commémore l'institution du Saint-Sacrifice de l'autel, l'institution de l'épiscopat aussi, et par conséquent du sacerdoce, tant de beauté, tant de grandeur dans cette messe qui commence le Triduum pascal. Notre Seigneur célèbre une dernière fois la Pâque de l'Ancienne Alliance avec ses apôtres, avec ses disciples, et même avec Judas, qui était un de ses disciples. Et ensuite, demain, il souffrira, il mourra, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ce qu'il a commencé à faire aujourd'hui, par l'institution de la très sainte Eucharistie, il le perfectionnera, il le parfaira, si j'ose dire, lors de sa résurrection, car que nous servirait-il de commémorer un sauveur qui serait mort? Mais lorsque nous commémorons la mémoire de ce sauveur qui est ressuscité, alors il s'agit beaucoup plus, infiniment plus, qu'une commémoration comme les païens peuvent le faire, mais il s'agit véritablement de la même chose, du même sacrifice, un seul sacrifice qui est sans cesse renouvelé sur nos autels jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas un seul jour dans le monde où il n'y aura pas le saint sacrifice de la messe, de telle sorte que lorsqu'il cessera, eh bien le monde aussi cessera. Comment que rendre à Dieu pour tous ses dons? Comment nous approcher dignement du sacrement qui non seulement est une oblation à Dieu le Père, mais est aussi une nourriture pour nos âmes. Il y a plein de choses, mes très chers frères, qui seraient à dire, et comme nous avons décidé de le faire aujourd'hui, nous n'en dirons que deux, ce n'est pas du tout à l'exclusion de toutes les autres choses que l'on pourra dire, et que sans doute les autres prêtres, les autres évêques aujourd'hui enseignent du haut de la chair, bien entendu. Mais enfin, il nous faut bien faire un choix, sinon nous pourrions parler toute notre vie sur ces mystères, et encore, nous mourrions que nous n'aurions certainement pas commencé à effleurer le commencement du commencement. Alors, mes très chers frères, nous examinerons aujourd'hui la première chose nécessaire pour communier dignement, c'est de ne trouver sa gloire que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'habitude, on dit qu'il faut être en état de grâce, confession, etc. C'est vrai, bien entendu, et d'autres le diront, et nous l'avons déjà dit, nous le redirons, etc. Voyons d'autres aspects de cette dignité. Il ne s'agit pas simplement d'être en état de grâce. Sinon, si c'était simplement l'état de grâce, alors, d'une certaine manière, on pourrait faire abstraction de tout le reste. Mais l'état de grâce, c'est un état d'une créature qui est ordonnée à la grâce. Ce n'est pas simplement le fait de confesser ses péchés et donc de décréter que je suis en état de grâce. Il s'agit d'être dans une vie, nous allons le voir dans un instant de façon un peu plus précise, il s'agit d'être habituellement dans une vie où la grâce est susceptible de ne pas être reçue en vain. Et cette vie, saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, qui constitue l'introïde d'aujourd'hui, il nous dit que cette vie se caractérise par le fait qu'elle est vécue sous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, dit-il, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Combien de chrétiens n'oseraient jamais communier sans s'être confessés, qui ne vivent pas sous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Que signifie vivre sous la croix du Christ? Eh bien, cela signifie plusieurs choses, mais nous dirons que négativement, cela ne signifie pas faire de la croix un étendard dont se couvrent nos passions et notre amour-propre pour se rendre utile à l'Église et faire d'elle notre débitrice. Nombreux sont ceux qui brandissent l'étendard de la croix, qui s'imaginent qu'ils sont des sortes de Sainte Jeanne d'Arc autoproclamées, qui brandissent un étendard, éventuellement qui s'imaginent être des croisés, alors qu'il faut tout un processus pour être croisé, c'est une chose très, très légale, si l'on peut dire, très juridique que d'être croisé, on n'est pas, aucun croisé de l'époque des croisades ne s'est croisé tout seul. Il y aurait bien des choses à dire sur la croisade. Combien de gens brandissent l'étendard de la croix pour s'en faire un drapeau dont ils couvrent leur amour propre, leur volonté propre et même pire, leur passion? Ils prétendent combattre pour l'Église, pour le Christ, et dans le fond, ils ne font que déployer les plus viles des passions, qui s'appellent l'amour-propre, le ressentiment, le zèle amer, ou alors l'outrecuidance, le culot, l'insolence, toutes choses qui ne sont pas, même si Peggy disait, parlait de la vertu d'insolence, mais qui est Peggy? Vivre sous la croix, ce n'est pas s'auto-imposer la croix. C'est venir humblement au calvaire et se soumettre à la croix qui est stable pendant que le monde virevolte, selon la formule bien connue. Pour nous, il nous faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, direz-vous, comment sait-on que l'on vit à son ombre ou sous son ombrage et que l'on ne se l'est pas auto-imposé d'une façon arrogante et inutile et vaine? Mes très chers frères, dès lors, ce n'est pas une preuve absolue, évidemment, parce que tout ce qui est de l'ordre du sensible peut être à double face, mais enfin quand même, dès lors où nous sommes tentés de fuir cette station sous la croix, c'est qu'il y a une forte probabilité que nous vivions sous la croix. Vous allez dire, vous faites de la tentation, donc de l'apostasie, un signe que nous vivons sous la croix? Mes très chers frères, ce n'est pas un signe absolu, car on peut se tromper sur soi-même. Mais quand le fait de vivre à l'ombre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ représente pour nous quelque chose de contraignant, représente pour nous quelque chose de pénible à porter, représente pour nous quelque chose de mortifiant, de crucifiant, en un mot, représente pour nous quelque chose qui va à l'encontre de toutes les tendances de la nature, alors il se trouve que, probablement, nous vivons à l'ombre de la croix, nous vivons sous la croix. Lorsque le fait de porter la croix est léger, lorsque je prends la croix et que j'en assène des coups sur mon prochain, lorsque je porte la croix avec légèreté et qu'il me semble que je suis comme propulsé depuis que je porte la croix, il est fort possible, ce n'est pas une preuve, car on peut se tromper là aussi, mais il est fort possible que je porte la croix à ma façon et non pas à la façon du Christ. Regardons comment le Christ lui-même a porté sa croix. Il l'a portée et de telle sorte qu'il a eu besoin du père d'Alexandre et Rufus pour pouvoir la porter, du moins pendant un bout de chemin, si j'ose dire. Il l'a voulu dans son humanité, il aurait pu tout faire évidemment lui-même, mais il a voulu nous enseigner, nous disent les pères. Quand je porte la croix, je la porte avec mes frères. Je ne la porte pas tout seul comme l'étendard de ma liberté vis-à-vis de ceux desquels je veux m'émanciper. Lorsque je porte ma croix, nécessairement je la porte avec mes frères. Lorsque je suis un Simon de Cyrène qui passe, et que la grâce m'impose la croix, et que je me convertis, je suis converti par la grâce, et que je deviens chrétien, il se trouve que je la porte avec notre Seigneur. Et ce n'est pas le Seigneur qui nous promet du pain gratuit tous les jours, ce n'est pas notre Seigneur qui nous permet le triomphe et la place de Premier ministre à côté du Christ roi qui va régner bientôt et qui va écraser tous ses ennemis. C'est notre Seigneur qui souffre. Certes, nous savons que notre Seigneur souffre, mais qu'il va ressusciter, qu'il reviendra juger le monde, et qu'entre-temps, il règne. Il règne d'une façon invincible, c'est vrai. Mais la croix que nous portons, nous la portons avec notre Seigneur Jésus-Christ souffrant. Donc la croix, si nous la portons véritablement, elle doit nous faire souffrir, dans le sens où elle doit véritablement et avant tout mortifier notre vieil homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consolation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sainte force et une sainte audace dans le brandissement de la croix pour les saintes causes lorsque nous sommes missionnés, bien entendu, je ne dis pas le contraire. Mais la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose qui est fondamentalement pénible à la nature. Et si notre nature trouve un très grand plaisir à défendre la croix du Christ, c'est probablement qu'elle la comprend mal. La croix, mes très chers frères, est le signe de notre renoncement à nous-mêmes. Se glorifier dans la croix, c'est une expression qui revient souvent chez Saint Paul, mais il faut bien la comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Se glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est renoncer à toute autre gloire que de se proclamer un esclave du Christ, racheté par son précieux sang et ne s'appartenant plus. Esclave du Christ, c'est exactement l'expression qu'emploie Saint Paul au début de presque toutes ses épîtres. Saint Paul, Paul, esclave de Jésus-Christ, serviteur, traduit dans nos traductions, mais littéralement, doulos, c'est esclave. Lorsque nous portons cette croix pénible, pénible à la nature, et que nous ne désirons aucune autre gloire que celle d'être un esclave de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas à l'exclusion du fait d'être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, etc., bien entendu, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, mes très chers frères, probablement que nous vivons dans la bonne perspective la vie chrétienne et que nous ne nous abusons pas tellement que cela sur nous-mêmes. En un mot, que signifie vivre sous la croix? Vivre sous la croix, c'est avoir conscience de l'aspect contraignant de notre devoir d'État. Car c'est une chose que de vouloir vivre sur la croix, c'est une chose que de ressentir la pénibilité de la croix pour ce qui est du ressort de la nature, puis en est une autre que de souffrir inutilement en tant que chrétien. On peut être un parfait vagabond d'État, si j'ose dire, un parfait solitaire, dans le mauvais sens du terme, un parfait individualiste, si vous voulez, souffrir parce que l'on se fixe comme objectif de vivre selon les maximes du Christ, et c'est déjà très bien, mais souffrir totalement inutilement, pourquoi? Parce qu'on n'en fait qu'à sa tête. Je suis un célibataire qui organise sa vie, il souffre parce qu'il se contraint, etc., parce qu'il vit selon les maximes du Christ, mais en même temps, je mène ma vie exactement comme je l'entends, et pour rien au monde, je ne m'asservirai au fait d'avoir une épouse, des enfants, qui viendraient embêter ma liberté, et il me semble que je me consacre plus au Christ en étant célibataire, mais en réalité, je fais absolument n'importe quoi, je suis une sorte de pseudo-religieux qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une certaine manière, qui vit comme un vieux garçon, une vie pénible, certes, si on la compare à une vie équivalente, mais dans le monde, mais une vie inutile, totalement inutile. Je suis un prêtre, vagus, qui n'obéit à personne, je souffre parce que je me soumets aux maximes de l'Évangile, je souffre parce que la croix est contraignante, bien entendu, mais je refuse d'être soumis à un évêque parce que il n'y a plus d'évêque, ou alors les évêques ne sont pas des évêques, ou alors personne n'est digne de moi, etc., ou alors tout à la fois. Je souffre inutilement. Tout ce que je fais est pour le diable. Comme dans le premier cas, je pourrais encore décliner tout ça, que chacun se regarde à soi-même et non pas à son prochain, bien entendu, il ne s'agit pas de jeter la pierre à son prochain, il s'agit de s'examiner soi-même, puisque c'est ce que nous demande de faire saint Paul. Tout ce que je souffre en dehors de mon état, je le souffre inutilement. Alors ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas empêché de faire mon devoir d'état, je suis un prêtre, je suis en prison, je ne peux plus dire la messe, est-ce que je fais... Bien sûr que non, tout ce que je le souffre, parce que je reste dans mon état, même si les hommes m'empêchent de le faire, bien entendu. Ce n'est pas du tout là le problème. Des fois, nous voudrions faire des choses, et la force des choses fait que nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas un problème. Mais tout ce que nous souffrons en dehors de notre état, réellement, structurellement, moralement, est souffert en vain, et même est souffert pour le diable. Je suis un laïc, je m'occupe d'enseigner mon prochain, d'évangéliser, de prêcher, de tonitruer, etc. Et on m'attaque, et les mondains m'attaquent, et on me fait des procès, etc. Tout ceci est souffert pour le diable. Vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un peu fort ce que vous dites ? C'est très fort, mais c'est surtout très fort ce que l'on fait. Tout ceci n'étant pas souffert pour amasser, rassembler avec le Christ, est souffert pour disperser. Ce n'est pas moi qui le dis, mes très chers frères, c'est le Christ. Tout ce que nous souffrons en dehors de notre devoir d'État ne vaut rien. Parce que notre devoir d'État est notre seul et unique moyen de sanctification, taillé sur mesure, quoique les États existent indépendamment de nous, pour notre sanctification. Je suis appelé à être prêtre, je ne pourrai jamais me sanctifier dans un autre devoir d'État. Je suis appelé à être père de famille, mère de famille, je suis appelé à être ceci ou cela, je ne peux pas me sanctifier dans un autre devoir d'État. Et quand personne ne vient nous dire « mon devoir d'État, c'est de défendre l'Évangile, etc. », c'est faux. Il y a un certain nombre de devoirs d'État dans la perspective chrétienne, dans la société chrétienne. Si je m'invente un autre devoir d'État, je suis un menteur. Donc, se soumettre à la croix, mes très chers frères, très concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est se contraindre à remplir à la perfection, avec l'aide de Dieu et de toutes les grâces d'État que nous avons reçues par l'un ou l'autre sacrement qui définit notre État, comme le sacrement de mariage, sacrement d'ordre, etc., ou alors, de façon générale, la confirmation, etc., me sanctifier dans mon devoir d'État et dans mon devoir d'État seul. C'est cela, se soumettre à la croix. Toute autre forme de soumission à la croix est une illusion, et si nous mourons dans cette illusion, nous ne pourrons pas faire valoir au jugement dernier, et au jugement particulier avant, que nous avons bien suivi les règles de l'État que nous étions imposés. Il y a des États prévus par Dieu pour se sauver. Tous les chrétiens doivent rentrer dans l'un ou l'autre État. Parfois, il peut y avoir des successions d'États. On peut commencer par être marié, et ensuite, on peut devenir religieux, parce qu'on devient veuf. Vous voyez, comme sainte Jeanne de Chantal, par exemple. Bon, donc, il y a des gens qui peuvent connaître plusieurs états, ce n'est pas ça le problème. La succession des états fait partie aussi du destin prévu par Dieu. Mais il faut que ce soit des états qui existent réellement. Tous les autres ne peuvent pas plaire à Dieu, puisqu'ils ne sont pas prévus par lui pour être des moyens de sanctification. Se soumettre à la croix, c'est la porter avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au calvaire, ce qui signifie que dans notre devoir d'état, il nous faut pratiquer une mortification universelle, de telle sorte que quiconque prend plaisir à être charnel dans son état, et cela peut être très différent de la façon dont les mondains peuvent être charnels, mais pour un chrétien c'est inexcusable, quiconque prend plaisir à être charnel ne suit pas notre Seigneur Jésus-Christ, donc le flagelle et le crucifie. La religion chrétienne n'est pas une religion de sensualité, ce n'est pas une religion de sibarite, ce n'est pas la religion non plus des derniers apologistes du XXe siècle qui faisaient de la religion chrétienne la religion du vin et de la danse. Mais où a-t-on jamais vu ça dans le christianisme ? C'est une religion de mortification universelle. Certes, il y a des consolations, et il y a même un certain nombre de consolations, et je dirais même, il y en a tellement qu'on pourrait s'imaginer que le christianisme est rempli de consolations. Il l'est. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes faibles, parce que nous en avons besoin, et nul ne doit jouer au fort quand il n'est pas fort. Ça, c'est certain. C'est pour cela qu'il y a plein de consolations dans notre religion, plein de consolations, plein de plaisirs licites. C'est tout à fait vrai, et celui qui dit le contraire est un menteur. La seule chose, il se trouve que tout ceci est relatif. Tout ceci est relatif à notre portement de croix et à notre persévérance. Notre Seigneur nous donne des consolations, mais ça ne veut pas dire être charnel. Il y a bien des consolations, dans tous les états, il y a des consolations. Mais il ne faut pas être attaché à ces consolations, mais comme dit l'adage que tout le monde connaît, au Dieu des consolations. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on ne le suit pas dans son état, selon son état, tout en pratiquant à la perfection son état, autant que cela est possible pour nous pauvres pécheurs, et tout en pratiquant ce détachement et cette mortification générique et universelle, eh bien, notre Seigneur, nous ne le suivons pas en portant sa croix, nous sommes exactement de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, nous sommes parmi ceux qui lui donnent des soufflets, des coups, qui le flagellent, qui le crucifient. Pourquoi devons-nous nous glorifier dans cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est saint Paul qui nous le dit, c'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. Sur la croix, il y a le Christ. La croix, c'est l'arbre de la vie. Le Christ, c'est le fruit de l'arbre de la vie qui est donné pour la guérison des nations et pour leur sustentation spirituelle. Dans le Christ, il y a le salut, car il nous a arrachés au royaume des ténèbres et nous a fait entrer dans sa lumière divine. De telle sorte que nous ne sommes plus sous le joug du diable, nous ne sommes plus les enfants du diable, métaphoriquement, mais les enfants de Dieu réellement. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes, dit saint Jean. En lui est le salut. Il nous a racheté, il nous a arrachés au royaume des ténèbres, il nous a rachetés à la colère de son Père. En lui est la vie. Et qu'est-ce que cette vie? Ce n'est pas, encore une fois, un supplément d'âme qui nous est donné pour être un peu meilleur que les païens et aller casser la figure aux païens. La vie, c'est l'ordonnation de l'état de voie en vue du renoncement à soi-même. On ne peut pas renoncer à soi-même tant qu'on n'est pas dans un devoir, dans un état qui impose des devoirs qui nous permettent concrètement de renoncer à soi-même. Vous voyez, je suis un militant autoproclamé, je suis un défenseur de l'Église autoproclamée, je me contrains à faire des articles tous les jours, tous les deux jours, à faire des vidéos, à faire des émissions, etc., que sais-je. Tout ceci me donne l'impression que je suis très réglé, très... Tout ceci, c'est la pâture de l'amour propre, de la volonté propre. Lorsque je suis une mère de famille et que j'aimerais faire autre chose, mais que je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma maison, c'est comme ça que je suis le Christ, et en français il y a ce jeu de mots, je le suis et puis je le suis aussi. Vous voyez, du verbe suivre et du verbe être. Lorsque j'ordonne, je vis dans une vie ordonnée selon un état, selon l'ordonnation de l'état, alors véritablement je marche à la suite du Christ différemment de quelqu'un d'autre. La femme marche à la suite du Christ différemment que son mari, le mari différemment que son prêtre, le prêtre différemment que son évêque, etc., et l'évêque différemment des autres, bien entendu, et ainsi de suite. Mais nous le suivons tous réellement, de telle sorte que nous ne fassions plus qu'un seul Christ dans le Christ. En lui est la vie. La vie, encore une fois, ce n'est pas un supplément d'âme pour féconder notre n'importe quoi. La vie, c'est l'ordonnation de l'état de voie en vue d'une imitation concrète et réelle et méritoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je suis dans un état défini et que je pratique l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aime Dieu et mon amour pour Dieu est manifesté par mon amour ordonné pour le prochain. Une mère de famille qui s'évaderait de ses deux tâches ménagères pour aller à la messe et puis pour faire ses dévotions, et qui abandonnerait son mari, ses époux, etc., ne se sanctifie pas, elle n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, elle fait la chose la plus pieuse qui puisse exister. Ce n'est pas cela, aimer Dieu et vérifier cet amour de Dieu par l'amour du prochain. On ne peut pas aimer Dieu au détriment du prochain. Un père de famille ne peut pas passer son temps à faire des articles contre les modernistes, etc., et délaisser sa famille. Il se damnera en faisant cela, même s'il fait quelque chose qui n'est pas répréhensible en soi, il se damnera, pourquoi? Parce qu'il n'a pas soin des siens. Et saint Paul nous dit, commencez par avoir soin des vôtres, et ne soyez pas comme les païens, et soyez au moins comme les païens, qui savent aussi parfois avoir soin des leurs. Le déploiement de la vie divine que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, en lui est le salut et la vie, ne peut se faire que dans le cadre de notre état. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut être utilisé par Dieu pour réaliser sa volonté. Souvent on dit, oui, mais si je me contente de mon état, que deviendra le monde, que deviendra l'Église, je me sens tellement de force pour combattre, tellement d'intelligence, tellement de talent. Mettez tout ça au service de votre État. Oui, mais j'ai l'impression d'assassiner Mozart. Un Mozart, c'est moi. Je m'assassine dans le sens où je me consacre bêtement à mes devoirs, alors qu'il y aura tant de choses à faire. Consacrez-vous intelligemment à vos devoirs, et vous verrez si Dieu ne vous utilisera pas d'une façon réelle, et d'autant plus réelle que vous n'en serez pas conscient. Vous voyez tous ces croisés autoproclamés qui vont défendre la chrétienté, puis qui font une vidéo, et puis quoi? Et bien après, ils vont boire une bière, ou pire. Mes très chers frères, il n'y a rien de plus puissant qu'une mère de famille qui élève ses enfants et qui est soumise à son mari et qui aime Dieu et qui le manifeste par le soin qu'elle porte à sa famille. Il n'y a pas plus puissant qu'un prêtre ou qu'un père de famille qui s'occupe de sa famille, qui leur apporte leur pain quotidien et qui s'occupe de ses enfants et de sa femme. Il n'y a pas plus puissant qu'un prêtre qui humblement fait sa tâche d'évangélisateur, de proclamateur de la parole, de sacrificateur, de directeur des âmes. Vous voyez? Il n'y a pas de plus puissant qu'un chrétien qui fait sérieusement son devoir pour l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'est dans le Christ le salut, la vie et la résurrection. Si nous avons souffert avec lui, alors nous ressusciterons avec lui. Encore une fois, souffrir pour le Christ, ce n'est pas rencontrer de l'adversité mondaine. J'ai fait un article très politiquement incorrect sur certaines histoires, certains points historiques, et il y a toutes sortes de lobbies qui me tombent dessus. Où est le Christ? Alors vous allez dire, mais quand même, c'est lié, c'est la foi. Oui, mais le problème, c'est que quelqu'un qui blasphémerait le Christ pourrait faire exactement le même article que vous. Et il l'a fait d'ailleurs. C'est pour ça que vous inspirant de lui, vous le faites. Suivez Jésus-Christ, mes très chers frères. Ne vous inquiétez pas de ces choses qui... Laissez les morts enterrer les morts. Vous voyez, si nous souffrons avec lui pour l'amour de lui dans le cadre de notre état, je suis un père de famille, je dois défendre ma famille et je souffre parce que je suis harassé par les gens qui veulent attaquer ma famille. C'est souffrir avec le Christ. Il ne faut pas oublier de souffrir en union avec le Christ et non pas parallèlement au Christ. Bien entendu, sinon on perdrait, même là, on perdrait les mérites. Vous voyez, il est en lui et le salut, la vie et la résurrection. Si nous crucifions la chair avec ses passions, alors nous aurons part à sa résurrection. Voilà comment nous devons vivre sous la croix, mes très chers frères. Et ensuite, notre deuxième point, est dit par saint Paul, dans la suite de cette introduite, c'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Mes très chers frères, la seconde chose nécessaire dans le cadre de ce sermon, la seconde chose nécessaire pour se conduire, pour communier dignement, c'est de savoir que sans le Christ, nous ne pouvons rien. Communier, ce n'est pas faire un passage à la station-service pour refaire le plein, de grâce évidemment, jusqu'à ce que le péché nous fasse perdre d'état de grâce, ou alors repasser plusieurs fois et élargir son bidon, enfin son réservoir pour en stocker le maximum. Qu'est-ce que c'est que cette façon de concevoir la communion? L'action salvatrice de Dieu est surtout de nature conservatrice. Dieu nous sauve. D'une certaine manière, il commence à nous sauver lorsqu'il nous arrache au royaume des ténèbres, il nous transplante dans le royaume de son Fils. Mais Dieu nous préserve à chaque instant. Il nous préserve, il nous conserve. Dieu nous soutient pour l'amour de lui-même. C'est pour cela que dans la deuxième partie de l'introïte, qui est tirée d'un psaume, il est dit que Dieu, c'est une bénédiction, que Dieu nous soit favorable et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face et nous soit propice. Si nous ne vivions pas, mes très chers frères, de par la bénédiction constante de Dieu, si nous ne vivons pas de par la bénédiction constante de Dieu, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous imaginons que nous avons fait le plein à notre baptême, à notre communion, que sais-je, et que désormais nous menons les guerres de Dieu pour Dieu, un Dieu plus ou moins découronné qui attend qu'on prenne sa défense. Non, mes très chers frères. De même que le monde subsiste parce que la présence d'immensité de Dieu fait que Dieu est à chaque instant en train de soutenir le monde et l'empêche de retomber dans le néant, de même, a fortiori, les chrétiens ne sont chrétiens que parce que Dieu, à chaque instant, les soutient et leur donne la grâce de persévérer jusqu'à la minute prochaine, que dis-je, jusqu'à la seconde prochaine. La bénédiction divine se constate. En fait, elle se constate moins qu'elle ne se connaît a priori. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est la station dans un état qui attire cette bénédiction, et non les entreprises que l'on suppose ne pas pouvoir, ne pas être bénies par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la bénédiction divine, nous savons que nous allons, avec une sainte audace, d'enfants de Dieu, de fils de Dieu dans le Christ. Avec une sainte audace, nous savons que Dieu nous bénira dans la mesure où nous nous en tenons au devoir d'État défini qu'il nous a attribué. Mais si je commence quelque chose pour la gloire de Dieu, je me dis, voyons, je mets tous mes talents au service de l'Église, qui ne m'a rien demandé, mais enfin quand même, je mets tout ceci, donc je présuppose que Dieu ne peut pas ne pas me bénir puisque je fais quelque chose pour lui. Dites tout simplement que Dieu va devenir votre débiteur et que vous l'avez bien piégé ou que vous l'avez bien eu parce que maintenant c'est à lui de vous renvoyer l'ascenseur. Mais très cher frère, quel chrétien pense comme cela? Nous savons que nous aurons la bénédiction divine dans la mesure où nous nous cantonnons à notre état. Et nous savons que nous devons savoir, je vous le dis, que vous n'aurez pas la bénédiction divine dans la mesure où vous usurpez et vous faites quelque chose, vous faites un état avec des bribes, des lambeaux d'un état qui n'est pas le vôtre. La bénédiction divine, nous n'avons pas à en chercher les preuves. Est-ce que Dieu me bénit? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai du succès? Nous savons que la bénédiction de Dieu est avec nous dans la mesure où nous nous tenons à notre devoir d'État. Et que nous faisons avec l'aide de Dieu et pour l'amour de Dieu et de tout notre cœur et de toute notre force, de toute notre volonté, ce que nous devons faire et ce que nous devons faire seuls. Ce qui est déjà pas mal en réalité, hein, quand on y pense bien. La face de Dieu ne brille que sur ce qu'il ordonne lui-même et non sur ce qui procède de la volonté propre. Que Dieu nous soit favorable et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face et nous soit propice. La face de Dieu est infiniment plus brûlante que le soleil. Lorsque nous sommes dans un devoir d'État, nous sommes devant la face de Dieu comme une petite plante au moment où elle doit pousser, dans la bonne terre, qui bénéficie de ces rayons du soleil. Lorsque nous ne sommes pas dans notre devoir d'État, nous sommes comme, que sais-je, de l'eau qui se trouve n'importe où, dans un creux, et qui face au soleil se met à croupir, comme une viande qui face au soleil se met à pourrir. La face de Dieu, mes très chers frères, est si terrible qu'il suffirait pour un chrétien de penser à l'invoquer pour obtenir une grâce, en quelque sorte de discernement sur lui-même. Je m'apprête à faire quelque chose, je vais dans un instant demander à la face de Dieu de briller sur moi et sur ce que je vais faire. Est-ce que je vais survivre? Je suis dans les liens du mariage, je suis dans le sacrement, j'ai reçu le sacrement de l'ordre, je suis dans la vie religieuse, je suis dans le veuvage, je suis dans un état reconnu par l'Église, par la société chrétienne. La face de Dieu, lorsqu'elle brillera sur moi, me fera croître. Je suis dans tout autre état, lorsque la face de Dieu se lèvera sur moi, elle me fera sécher, elle me fera brûler, elle me fera pourrir, elle me fera me corrompre. Et la pire façon pour la face de Dieu d'agir d'une façon terrible, c'est de donner l'impression à une chose qui n'est pas de Dieu qu'elle prospère. Regardez, j'ai 150 000 abonnés. Regardez, il y a un déluge de pouces bleus. Ah oui, 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 mes très chers frères. Dans l'oraison, nous disons ceci à Dieu qui est une oraison terrible. Ô Dieu de qui Judas a reçu la punition de son crime et de qui le larron a reçu la récompense de sa foi, accordez-nous les bienfaits de votre miséricorde. Faites que notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa passion a été traité traité l'un et l'autre suivant ses mérites, détruisons-nous aussi les égarements du vieil homme et nous donne la grâce d'avoir part à sa résurrection. Il y a quelques années, vous vous en souvenez, mes très chers frères, nous avions étudié le jeudi saint, nous avions étudié cette oraison. Ici, nous ne ferons que la survoler. Dieu juge, dit cette oraison, selon les mérites. Or, si par une grâce efficace, notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, ne nous donne pas de vaincre l'erreur de la vétusté, littéralement, c'est-à-dire les égarements du vieil homme, Il est impossible de ne pas mériter pour notre condamnation. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a les mérites et puis après il n'y a rien. Il y a les mérites pour la vie éternelle, puis il y a les mérites pour la vie éternelle en enfer. Il y a Judas a acquis de grands mérites, de très grands mérites, lorsqu'il s'est pendu, lorsqu'il a livré et trahi notre Seigneur, qu'il a eu cette fausse repentance, et qu'il s'est. Il a mérité la vie éternelle, il a mérité la mort éternelle. Quoiqu'il fût apôtre. Et le larron, ce misérable criminel, en un instant, lorsqu'il s'est tourné vers le Christ et qu'il lui a dit, Seigneur, il a dit déjà à Gesmas, il lui a dit, n'as-tu pas, ne crains-tu pas Dieu, n'as-tu pas honte, etc. Nous subissons un châtiment, une punition juste pour nos péchés, mais lui il est innocent. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous entrerez dans votre règne. En un instant, ces paroles lui ont peut-être pris 2-3 minutes, mais peut-être moins. En 2-3 minutes, celui qui avait vécu toute sa vie dans la corruption du péché et du crime, au point de mériter le châtiment de la croix, est devenu le premier à entrer au ciel, le premier sauvé de notre Seigneur. Et l'autre, qui avait passé 3 ans avec notre Seigneur, qui avait reçu une vocation d'apôtre et d'évêque, avait reçu 3 ans avec notre Seigneur, avait la charge de trésorier de la communauté des apôtres. Eh bien, en un instant, en quelque sorte, enfin pas tout à fait en un instant, mais enfin, en un instant, le diable est rentré dans son cœur, il a trahi notre Seigneur. Pourquoi ? On pourrait dire qu'il a été irrité du fait que notre Seigneur n'a pas fait vendre le parfum à Sainte-Marie-Madeleine, etc. Et donc du coup, vous voyez, comme dit l'Évangile, enfin, en un instant, on peut passer d'une vie de damnation à l'état d'enfant de Dieu. Et en un instant, on peut passer d'une vie de persévérance dans le christianisme à l'état d'apostat et de damné. La différence, mes très chers frères, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la grâce que nous recevons. Et c'est pour cela que nous demandons à notre Seigneur, détruisez en nous aussi les égarements du vieil homme. Les égarements du vieil homme, c'est la volonté propre. Les égarements du vieil homme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour propre. Les égarements du vieil homme, c'est la sensualité, c'est les passions. Quelle qu'elle soit, si nous voulons être dignes, nous approcher dignement de la Sainte Table pour pouvoir communier au corps de notre Seigneur, au corps et au sang de notre Seigneur, nous devons comprendre que l'indignité ne consiste donc pas à être simplement en état de péché mortel au sens restreint du terme, mais bien plus largement, elle consiste dans un défaut structurel d'ordonnation et plus encore de connaissance de notre impuissance, un défaut de connaissance de notre impuissance à faire aucun bien sans le Christ. Alors vous allez dire, mes très chers frères, nous concluons par cette perspective, de dire, mais alors, à cette aune-là, qui peut communier, qui est assez digne de communier ? C'est un faux dilemme, mes très chers frères. Mettons notre vie en ordre, mes frères. Renonçons à notre volonté propre et accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions dans la charité, la foi et l'espérance, les œuvres de notre devoir d'État. Consultons notre confesseur. Et nous verrons que la dignité, en fait, est beaucoup plus à notre portée qu'on peut l'imaginer. Notre Seigneur ne veut pas donner la communion simplement il ne veut pas la donner à ceux qui sont au ciel. Il la donne à ceux qui sont en état de voie, en état de viator, en état de voyageur. Il ne la donne pas à n'importe qui, mes très chers frères. Or, pour être digne de communier au presse corps de notre Seigneur, il nous faut donc vivre sous la croix et vivre dans la connaissance que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Vous voyez, ce n'est pas très difficile, mais que Dieu nous donne de le mettre en pratique, afin que nous puissions communier dignement, et un jour nous retrouver tous ensemble au ciel, et à partager avec les élus la gloire de la vision béatifique éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.